suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis artiste.
Nous sommes le premier lundi du mois, et comme tous les premiers lundis du mois, de 8h à 9h, eh bien, c'est l'heure de tous essentiels avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien?
Oui, et toi Max?
Eh bien oui, très bien. Alors, de quelle version allons-nous parler ce matin?
Oui, nous sommes toujours en quête des versions de revenus de base, parce que figurez-vous que plein de gens s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, on a Patrick Collin de Verdière, qui va nous présenter la version créée par Nouvelle Donne. Patrick, es-tu avec nous?
Oui, je suis là.
Bienvenue, chouette.
Bonjour à tous.
Alors Patrick, on va d'abord te soumettre à notre question rituelle. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre sur ton compte. Ça tombe. Y a rien à faire, c'est à ton nom et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Eh bien, je pense que ça changerait pas énormément pour moi.
Ah bon?
Dans le sens, d'abord, ma vie est quand même bien avancée, puisque j'ai maintenant presque 59 ans.
Oula!
Donc je suis un peu à la fin de ma carrière professionnelle. Mmh. Mais de fait, moi je fais partie des gens qui aiment bien ce qu'ils font.
Ça existe encore, c'est
incroyable. Au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc voilà, je fais partie des gens qui sont, on va dire, bien dans leur vie aujourd'hui. Et je sais que c'est une chance parce que c'est pas le cas forcément de tous mes concitoyens. Donc concrètement, moi, si j'avais cette opportunité d'avoir un revenu, alors on verra de quel montant il est, mais
oui.
Qui tombe comme ça. Probablement que je réduirai quand même un peu mon temps de travail parce que je fais partie de ceux qui militent pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Oui.
Probablement que je resterai dans mon activité actuelle et j'attendrai la retraite. Et à la retraite, je pourrai développer encore un peu plus toutes les activités que je fais déjà à côté de mon activité professionnelle, du jardinage, du bricolage, tout ce que les gens devraient pouvoir faire un peu plus qu'aujourd'hui s'ils avaient un peu plus de temps libre, quoi.
Mais c'est du travail aussi, le jardinage. C'est toujours du travail au final. Enfin, mais où sont les feignants qu'on nous vante tant? C'est incroyable.
C'est du travail, mais c'est du travail que moi j'aime bien.
Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter une version qui a été portée par, qui est portée encore par Nouvelle Donne. Est-ce que tu peux nous présenter d'abord Nouvelle Donne, ses valeurs, son projet de société, qu'on puisse situer un petit peu ta version?
Oui, voilà. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui une version qui a été élaborée principalement. Donc c'était entre 2014 et 2016, hein, à la création de Nouvelle Donne, enfin assez vite à la création de Nouvelle Donne. Moi, je me suis impliqué dans Nouvelle Donne alors que j'avais jamais été politisé, jamais adhéré à un parti, parce que effectivement, il proposait une approche qui me semblait assez pertinente, et notamment en mettant en avant, parce que c'était le leitmotiv principal de Pierre Larouturou qui avait créé ce parti, justement cette réduction du temps de travail. Alors, moi, bizarrement, je suis un peu tombé dans le revenu de base par cette entrée, réduction du temps de travail, semaine des 4 jours, qui me parlait beaucoup, quoi. Et donc, Nouvelle Donne était un parti qui voulait mettre ça en avant et organiser une grande réforme sociale autour de cette idée de réduction du temps de travail, mais aussi de transition écologique, parce que voilà, c'est aussi D'accord. clairement un parti qui milite pour la transition écologique et milite aussi pour la réduction de la pauvreté. Voilà les trois grands axes de travail de Nouvelle Donne. Donc moi, ça me parlait bien. Donc je me suis investi et en fait ça a été assez vite après puisque ben, je me suis retrouvé déjà au comité national de Nouvelle Donne et puis en charge du programme notamment. Donc voilà, pendant 2 ans avec une collègue, on a animé un peu un groupe de travail qui était dispersé un peu partout en France hein, avec des commissions thématiques pour élaborer le programme de Nouvelle Donne, qui était le programme prévu pour les élections présidentielles de 2017.
Et est-ce que tu peux nous sous-titrer un petit peu le lien que tu fais, parce que ça a l'air tout à fait naturel dans ta bouche, mais entre réduction de la pauvreté, réduction du temps de travail et transition écologique?
Aujourd'hui, alors moi je fais partie de ceux qui pensent que la transition écologique est non seulement nécessaire mais urgente. Hein. Alors, je sais que tout le monde pense pas ça en France, mais en tout cas, moi c'est mon idée.
Nous aussi.
Et du coup, ça implique selon moi plusieurs choses. Hein. Je vois mal comment on arrivera à faire une transition écologique suffisamment marquée, efficace, en tout cas qui réponde vraiment à la problématique et qui arrive à nous remettre dans une bonne trajectoire, on va dire, de durabilité, si je peux utiliser ce terme-là, réduire notre activité économique globale. Réduire notre activité économique, toute l'activité globale, hein, en France, dans le monde, etc. Et donc c'est pour ça, enfin moi j'ai ça depuis longtemps en tête, et c'est entre autres pour ça que je militais déjà avant d'entrer à Nouvelle Donne, par exemple au collectif Roosevelt, sur le partage du temps de travail, en disant de toute manière, il faut arrêter de toujours courir sur travailler plus. Hein. Je pense que nous, dans notre pays, on couvre déjà largement les besoins de notre population, puisqu'on est plutôt dans une société de surconsommation. Donc en gros, enfin jusqu'à 2022, on manquait de rien hein, dans notre pays. Donc j'ai jamais bien compris cette course à toujours vouloir produire plus, travailler plus, etc. Quoi. Et pour moi, c'est totalement incompatible avec la transition écologique. Quoi.
Oui,
et le lien avec la pauvreté, et ben, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens dans notre pays qui galèrent, soit parce qu'ils n'ont pas d'emploi, soit parce qu'ils travaillent à temps partiel, et qu'à temps partiel, aujourd'hui, c'est très dur de vivre.
Ouais, c'est pas suffisant.
Parce que vu le niveau des salaires, déjà à temps plein, c'est pas terrible. Donc si on se retrouve à temps partiel forcé, c'est encore plus compliqué. Et donc c'est vrai que mon idée de départ, c'était de dire si on pouvait à la fois réduire le temps de travail pour tous, pour que chacun puisse retrouver un emploi, et en même temps revaloriser pas forcément les salaires, mais revaloriser ce que j'appelle le revenu net global, c'est-à-dire le salaire plus le revenu de base, ça me paraissait intéressant.
D'accord. Oui, alors vous, en tout cas, cette version, elle s'appelle, pour pouvoir lui donner un nom et une spécificité pour la repérer dans le paysage, le revenu citoyen inconditionnel, c'est ça ?
Voilà, c'est le nom qu'avec les collègues de Nouvelle Donne, on avait retenu, hein, on avait fait un vote auprès des militants pour savoir quel terme ils voulaient garder. Et ce qui est sorti, c'est revenu citoyen conditionnel, dans le sens où c'est peut-être moins l'aspect montant revenu de base qui joue, mais l'aspect en lien avec la citoyenneté, c'est-à-dire la notion que ce revenu doit être donné à tout citoyen et de manière totalement inconditionnelle. Mais bon, ça rejoint là. On va dire la règle générale du MFRB.
Ouais. La définition internationale, oui. Oui, alors du coup, ce que j'entends, c'est que c'est pas seulement un outil, parce que le revenu de base, finalement, en soi, ça peut n'être qu'un outil. C'est tout un projet de société. Tu parlais de rénovation sociale, de réforme fiscale avec la répartition du temps de travail. Est-ce que tu peux nous dire peut-être plus techniquement le montant, le financement? C'est toujours la question qu'on nous pose.
Oui, alors, effectivement, et c'est d'autant plus important que nous, on a fait ce travail dans le cadre d'un programme politique, on va dire, et moi, personnellement, m'étais toujours dit que jamais je pourrais proposer aux gens un programme avec un revenu de base, etc., si je n'avais pas moi-même vérifié la faisabilité des propositions que j'allais faire. Et donc, du coup, on s'est mis comme exigence d'aller assez loin quand même dans l'étude technique et dans l'étude de faisabilité, à la fois sur les paramètres du revenu de base, mais à la fois ou du revenu citoyen, je vais essayer de l'appeler revenu citoyen maintenant, et aussi de la réforme sociale et fiscale qui ne peut pas manquer à ça. C'est-à-dire, on ne pourra pas mettre un revenu citoyen en place si on ne fait pas en parallèle une réforme sociale, une réforme fiscale cohérente et globale. Donc, alors, les paramètres techniques, bon, finalement, c'est assez simple. Là, dans l'ordre des questions qu'on doit se poser, si on veut commencer à parler d'un revenu de base, d'un revenu citoyen, c'est effectivement le montant. Ça, c'est quand même la question, oui. La question centrale
on attend tous.
Que tout le monde pose et que, logiquement, nous, on doit se poser en premier. Donc là, il y a eu des débats au sein de notre équipe. Et finalement, on a stabilisé la discussion sur un montant qui est plutôt, on va dire, dans la fourchette moyenne-basse des différentes propositions de revenus bas, parce que là, on a travaillé sur une base de 600 € par mois et par adulte en âge d'être actif, donc c'est-à-dire entre 18 et 64 ans. Alors, pourquoi 600 €? Parce que il fallait quand même que le revenu de base soit supérieur
minima sociaux,
ouais. Qui était à l'époque, je crois, on était en 2014, le RSA devait être à 520 €, je crois. C'est ça, donc il fallait quand même qu'il soit quand même assez significativement supérieur. Mais effectivement, dans notre équipe, on était tous d'accord pour dire qu'on ne sent pas l'obligation d'aller, par exemple, au seuil de pauvreté, hein, comme on entend
qui est autour
parfois.
De 1000, oui.
Hein, voilà. Et moi, j'assume ça totalement, hein, parce que on était bien dans l'idée de proposer aux gens ce revenu citoyen comme base inconditionnel, mais on pense, et je suis encore toujours assez d'accord avec ça, que les gens dans notre pays sont quand même encore très attachés à cette notion d'activité professionnelle, rémunérée, etc. quoi. Donc 600 €, ça nous paraissait un compromis qui permette soit à des gens qui sont prêts à vivre dans une grande sobriété. Alors le mot sobriété à la mode aujourd'hui, il n'était pas à la mode à l'époque, mais donc 600 €, ça nous, pour des gens qui voulaient vivre dans une grande sobriété, ça pourrait paraître possible, mais notre norme à nous, c'était plutôt que ce 600 € doit être complété par une activité rémunérée. Voilà. Alors, sachant que après, il faudra voir qu'est-ce qu'on entend par activité rémunérée, etc. Enfin,
oui, oui, oui.
De préférence, une activité rémunérée qui fasse sens, qui soit choisie et puisse se faire dans des bonnes conditions. Hein. Donc voilà, donc ça c'était notre point de départ, 600 € pour les adultes actifs.
D'accord.
Et puis, à côté de ça, on a une version enfant. Hein, donc en gros, on était sur 200 € pour jusqu'à 13 ans et entre 400 € mensuels pour les 13 à 18 ans.
Mmh.
Et puis, encore un montant différent pour ce qu'on va appeler les seniors. Donc les seniors, pour nous, c'était à partir de 65 ans, donc potentiellement les gens qui sont à la retraite. Et donc nous, on avait dit, on va mettre en place un revenu citoyen de 1 200 € pour les retraités. Voilà. Donc ça, c'est les montants. Après, la question qui vient ensuite, c'est effectivement comment on finance tout ça. Et pour se poser la question.
Et qu'est-ce que vous mettez dans le paquet? Est-ce que c'est.
Voilà.
Est-ce que vous mettez des allocations
Comment on finance tout ça? Il faut effectivement se poser la question de qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on modifie dans, on va dire, le paquet global de la protection sociale aujourd'hui en France. Donc, il y a des choses qui sont assez évidente et que je pense qu'on peut rapidement se mettre tous d'accord là-dessus, c'est que, par exemple, le revenu citoyen enfant, comme je l'ai décrit, peut remplacer largement les allocations familiales.
Hein, il recouvre et les...
Voilà, ce qu'ils donnent. Et à notre sens, c'était d'autant plus vrai que les allocations familiales, alors je crois qu'elles ont évolué un peu depuis, hein, mais à l'époque, étaient encore un peu complètement déconnectées de la réalité des familles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les allocations familiales, à l'époque, ont été conçues dans les années, on va dire, 70, où on voulait une politique très nataliste.
Et donc, des enfants,
on ne donnait rien au premier enfant, on donnait plus au fur et à mesure que les enfants étaient nombreux, etc. Ce qui n'a plus beaucoup de sens dans notre société d'aujourd'hui. Donc voilà, donc grande réforme, enfin suppression, on va dire, des allocations familiales et remplacement par ce revenu citoyen-enfant, 200 jusqu'à 13 ans et 400 euros par mois.
D'accord.
Pour le revenu de base, revenu citoyen adulte,
oui.
600 euros par mois, il a largement vocation à remplacer le RSA. Donc là, on supprime le RSA et c'est le revenu citoyen qui le remplace. Et le revenu senior, le revenu citoyen pour les seniors, 1200 euros par mois, lui, dans notre esprit, a vocation à remplacer complètement la retraite de base. Hein, ce qu'on appelle la retraite de base, c'est en gros ce qu'on appelle aussi la retraite de la sécurité sociale.
Minimum
la retraite, c'est la retraite, on va dire, classique, hein, par répartition et auquel on a droit aujourd'hui. Pardon. pour l'obtenir aujourd'hui, il faut avoir les fameuses trimestres, hein, une carrière complète avec ces fameux 168 trimestres cotisés. Et puis cette retraite de base, elle est calculée sur le revenu d'activité moyen qu'on a eu. Alors, dans le privé, c'est sur les 25 meilleures années. Oui. Dans le public, c'est sur les 6 dernières.
Ça va sans doute changer, donc, effectivement.
Et voilà.
Voilà.
Et ça fait partie des choses qui se réforment de temps en temps et dont on reparle régulièrement.
Quoi. De plus en plus. Hein. Moi, à chaque fois que je regarde ma retraite, elle recule. Hein. J'ai arrêté de la regarder, d'ailleurs.
Donc, nous, on dit, on veut complètement déconnecter cette retraite de base, donc ce revenu citoyen senior, de la carrière. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça n'a aucun sens de continuer à chercher une corrélation entre la carrière et la retraite de base, parce que finalement, quand on arrive à la retraite, on est un peu tous à égalité. Hein. On a en gros tous un peu des problèmes d'âge, etc. C'est pour ça qu'on nous propose d'être à la retraite. Hein. C'est qu'on considère que on est peut-être moins apte à travailler, etc.
Surtout
et
pour
finalement,
les sénateurs.
Ce qu'on a fait avant, on s'en fiche un petit peu. Hein, on se retrouve là tous à être un peu plus libre de son temps, pouvoir s'engager dans des activités associatives, etc., ou vivre simplement pour soi. Et donc, il n'y a pas bien de raison, à mon sens, de garder ce lien entre ce qu'on a fait avant et ce qu'on a fait. Et puis en plus, on voit qu'aujourd'hui, ce concept de carrière complète, avec des 4 trimestres à marquer chaque année, etc., et ben, ça devient très compliqué, hein, parce que les gens, plus ça va, plus ils ont des carrières hachées, on a commencé tard à travailler parce qu'on a fait des études, etc. Et donc finalement, dans le système actuel, il fonctionne pas trop bien, quoi. Hein, il y a beaucoup de retraités qui ont des très petites retraites, qui sont pauvres à la retraite, etc. Et puis à l'autre bout, il y en a qui en profitent quand même bien. Donc c'était un peu une remise à plat de tout ça.
Du coup,
donc,
si je récapitule...
On supprime la retraite de base et on la remplace pour toute personne de plus de 60, à partir de 65 ans, de 1200 euros par mois sous forme d'un revenu citoyen. Donc c'est complètement inconditionnel, hein. C'est totalement indépendant de ce qu'il a fait pendant sa vie professionnelle et ça restera jusqu'à la fin de ses jours.
Du coup, oui. Si je récapitule, Patrick, c'est donc pour je veux dire les adultes actifs, ceux qui sont RSA gagnent un peu et puis ça automatise.
Oui.
Et ceux qui travaillent ou qui ont plus, ils ont au moins ça et puis ils cumulent.
Ils cumulent, voilà.
Et à partir de 65 ans, c'est ça? C'est l'âge. que tu as cité.
Ouais.
Ce que j'entends, c'est que par rapport à aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui au minimum vieillesse, ils gagnent, parce que voilà,
oui.
c'est quand même un montant, 1200, c'est quand même un montant qui est largement supérieur à l'aumône qu'on leur donne aujourd'hui, qui suffit pas notamment pour les plus précaires qui n'ont pas pu, qui ont pas pu mettre de côté, économiser pour acheter, notamment. Enfin, la question du logement est cruciale.
Oui.
Donc, ce que j'entends, c'est que ceux qui ont eu des carrières hachées ou des mi-temps obligés, enfin, un peu toutes les situations que tu citais, du coup, ils gagnent et ils gagnent une certaine stabilité à un âge qui dépend pas de leur carrière. Et par contre, ceux qui ont pu avoir la chance, alors peut-être comme moi, comme fonctionnaire ou comme d'autres, d'avoir des carrières plus protégées et puis surtout mieux payées, mais qui ont pu en parallèle acheter par exemple, et donc qui sont déjà plus sécurisés en arrivant à la retraite, on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on aura. Du coup, on a moins une forme de solidarité du troisième et quatrième âge, quoi. C'est ça?
Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça amène à... Il faut maintenant réfléchir à qu'est-ce qu'on garde comme élément de la protection sociale actuelle,
oui.
quoi.
Oui, parce que
là, on a vu ce qu'on remplaçait, et il y a quand même trois choses qu'on va garder, qui nous semblent importantes de garder à côté du revenu citoyen. Alors, la première chose, c'est l'assurance maladie. On était tous d'accord pour dire qu'il n'y a vraiment aucune relation entre revenu citoyen et assurance maladie. Hein,
oui, parce que 1200, quand on est une personne âgée, ce n'est pas suffisant pour les
soins.
Ce n'est
pas inconditionnel, l'assurance maladie. Hein. On a besoin qu'on est malade, on ne sera pas tous malades, heureusement, mais on a tous besoin d'avoir une sécurité par rapport à l'aléa de la maladie.
Donc, on garde la sécu.
On garde la sécu, et non seulement on garde la sécu, mais on universalise la sécu et on la simplifie en ne gardant en gros qu'un seul régime de sécurité sociale. Donc notre idée, ce serait de dire, on sort des, je ne sais plus combien, il y a 10, 12 régimes de sécurité sociale aujourd'hui qui existent. Hein. Donc on remet tout ça à plat, on affilie tout le monde à la sécurité sociale, voilà, à la CPAM, à la sécurité sociale. Et en plus, c'est universel, c'est un droit universel. C'est-à-dire qu'on coupe aussi le lien qui existe encore entre le fait que aujourd'hui on a droit. Alors si il y a la CMU hein, qui corrige un peu ça, mais dans le principe général, les droits à la Sécu sont liés au fait d'avoir une activité professionnelle,
oui.
enfin de cotiser. Alors soit cotiser parce qu'on a soi-même une activité professionnelle, soit via son conjoint, par exemple. Hein. Moi, je pense qu'il faut casser aussi ce lien-là. Et d'ailleurs, quand on réfléchit et qu'on milite pour un revenu de base, on est obligé de réfléchir à l'universalité de la sécurité sociale. Parce que si on accepte l'idée de vivre dans une société où les gens ont un revenu de base et donc potentiellement peuvent faire le choix de vivre sans activité professionnelle, à un moment, il faut bien se poser la question de savoir si ces gens-là gardent ou pas un droit à l'assurance maladie. Donc nous, la réponse est d'évidence oui. Et donc ça veut dire que le droit à l'assurance maladie devient un droit universel. Il sera toujours financé par les cotisations sociales, ça ne change pas. Mais par contre, voilà, un seul régime pour tous, c'est un droit universel.
Donc du coup, même si le montant du revenu citoyen conditionnel ne va pas jusqu'au seuil de pauvreté, vous renforcez ce qu'il y a autour, et notamment la Sécu. Et là, pour le coup, c'est pas du tout à la mode aujourd'hui quand on voit ce qu'ils sont en train de faire de la sécurité sociale. Donc au MFRB, on aime bien les réformes, mais que si elles vont vers une plus-value sociale et solidaire. Donc celle-là, on accepte et on valide et on applaudit des quatre bras.
Voilà. Alors, un autre poste de la protection sociale qu'il faut garder, c'est le pôle emploi. C'est-à-dire, le pôle emploi, alors on n'est pas optimiste, voire naïf, au point de dire, on passe tout le monde à la semaine des 4 jours, alors 32 heures ou 28 heures. Moi, je milite plutôt pour 28 heures, mais on avait fait les calculs à l'époque sur une base de 32 heures. En soi, ça ne va pas suffire à résorber le chômage directement, d'autant plus que moi je garde aussi l'idée qu'il y a aujourd'hui des activités nuisibles qu'il faudrait faire disparaître. Hein. Donc moi ça ne me gênerait pas qu'on détruise un peu de l'emploi dans des branches d'activité qui me paraissent totalement incompatibles avec la transition écologique, etc.
Les traders, les licencieurs.
Oui, voilà.
Max, il a quelques idées aussi là-dessus.
En parle plein. Ceux qui appellent pour te vendre des cuisines alors que tu n'as même pas de maison. Enfin.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de choses à revoir là-dedans. Et donc, malgré tout, on pense qu'on peut encore avoir un problème d'emploi pour tous pendant quelques années. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça se régularisera. Donc, il faut garder un système d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est une chose, hein, on ne change pas beaucoup, l'emploi existe. Par contre, ce qu'on voulait faire, c'est renforcer le budget du Pôle emploi pour qu'il puisse avoir vraiment les moyens d'assurer une mission qui, à l'époque, était mal assurée, qui est la formation des demandeurs d'emploi. Hein, dans notre pays, la formation des gens en activité professionnelle est assez bien organisée. En plus, depuis, elle a été encore remodulée et ça marche plutôt pas mal. Par contre, on a un vrai problème de formation des demandeurs d'emploi. Donc voilà, nous, on s'était dit, il faut garder le Pôle emploi en lui donnant plus cette mission d'accompagner la formation des demandeurs d'emploi, voire de financer la formation des demandeurs d'emploi, plutôt que d'être là juste à fliquer les gens pour savoir s'ils cherchent bien un emploi.
On avait eu une émission avec des agents sociaux qui désespéraient de la progression de leur métier, de plus en plus technique, de plus en plus paperasse, de moins en moins finalement accompagnement humain. Et je fais le lien aussi avec toute cette étude du Shift Project qui justement a mais vraiment secteur par secteur, étudier quel type d'emploi il faudrait faire évoluer pour arriver à une décarbonation. On n'est même pas encore dans une transition écologique, c'est juste la décarbonation de notre économie. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, tu parlais de transition écologique, il y a tout des pans de la société entière, de personnes qu'il va falloir accompagner vers d'autres métiers, d'autres savoir-faire et d'autres habitudes même de vie et de consommation, etc. quoi.
Donc voilà, et troisième poste de protection sociale qu'on garde à côté du revenu citoyen, c'est une retraite complémentaire. Donc ça va répondre à la remarque que tu faisais. Hein. On n'était pas forcément à dire, les gens qui ont eu une belle carrière, qui ont eu des bons revenus, etc., on va tous les ramener à 1 200 € à partir de la retraite et on les met tous à égalité. On n'a pas été aussi extrémiste que ça. Mais par contre, donc on dit, on a les 1 200 € du revenu citoyen et puis on garde à côté un système de retraite complémentaire qui finalement peut être très proche du système actuel. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de changer forcément. C'est donc un système par points, hein, comme il fonctionne aujourd'hui, par répartition par points. Donc en gros, l'idée, ce serait de garder un seul régime. Par contre, on fait la même chose que pour l'assurance maladie. On garde un seul régime et non plus les 35. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 35 ou 36 régimes de retraite complémentaire qui cohabitent en France avec des gens qui se trouvent ce qu'on appelle des multipensionnés, c'est-à-dire qu'il va y avoir 5 ou 6 caisses de retraite qui vont leur verser chacun un petit bout de retraite complémentaire. Donc ça nous
paraît film Mammouth.
Un peu désuet et un peu absurde. Donc il faudrait remettre ça à plat. Donc l'idée la plus simple, c'était de garder l'ARCO, hein, qui est le régime qui couvre aujourd'hui la majorité des retraités, d'affilier tout le monde à l'ARCO. On transfère les droits acquis dans les autres caisses vers des droits ARCO. Et puis après, on reste dans le modèle actuel, hein, c'est-à-dire que voilà, en fonction du revenu, on marque des points. Et puis à la fin, on transforme les points en une somme d'argent. Oui. Donc ça nous paraissait le système le plus simple. Et donc effectivement, ça donnerait pour les retraites, ben, celui qui a eu que des... probablement qui n'a travaillé que toute sa vie au SMIC, il aura finalement pas grand-chose de plus que ces 1 200 € de revenus citoyens, mais qui sont assez proches de ce qu'il aura eu pendant toute sa vie professionnelle. Et puis pour ceux qui effectivement ont eu un niveau de vie supérieur, ils auront marqué des points. Sachant qu'il y aura probablement un plafonnement à faire, mais ça va être la fiscalité modulable et progressive qui va le mettre en place, qui va faire ce travail.
En tout cas, ça sera plus sécurisé que la myriade des assurances privées qui essayent de gagner des parts de marché, qui jouent avec notre argent et voilà. Qui font
donc
varier
nous,
les prix des produits de base.
Et un peu universel pour tout le monde aussi, le même pour tout le monde.
Max a une proposition à nous faire.
Une petite proposition musicale, effectivement, avec René Bistan et les chômeurs de mon quartier. C'est parti.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés. Pour leur bonne humeur et leur disponibilité, leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante, comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Il te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Et voilà, c'était Renaud Bistan sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base.
Et nous sommes toujours dans notre version, dans notre tournée des versions. Aujourd'hui, nous avons Patrick qui nous parle de la version de Nouvelle Donne qui s'appelle le revenu citoyen inconditionnel. Donc là, maintenant, Patrick, tu nous as fait voilà une sorte de récapitulatif technique, alors non pas de l'outil, mais bien de tout le projet social porté par Nouvelle Donne, qui inclut un revenu de base, évidemment. Mais en fait, est-ce que tu pourrais nous dire là maintenant où est-ce que en est le projet de Nouvelle Donne? Et aussi, il me semble que toi, tu y as continué à y réfléchir depuis que ça a été présenté aux élections présidentielles en 2017. Voilà, comment est-ce que la version a évolué depuis?
On continue. Alors pour Nouvelle Donne, donc moi j'ai pris du recul avec Nouvelle Donne, mais si vous allez sur leur site, apparemment le projet de société reste le même. Hein, le projet global de société qu'on avait élaboré pour 2017 reste le même et le revenu citoyen est toujours là mentionné. Pour ce qui est, moi, de mes réflexions personnelles et de l'évolution, je pense que la proposition garde sa cohérence et sa logique. Mmh. C'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, moi, je militerais d'abord pour qu'on réduise encore plus les heures de travail. Qu'on passe à la semaine de 28 heures, ça me paraît déjà le maximum qu'on puisse faire au jour d'aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, de toute façon, si on faisait 35 heures en 5 jours, logiquement, doit faire 28 heures en 4 jours. Je pense que ça, c'est...
Moi, je suis d'accord. Oui. Je pense que tous ceux qui sont malades du travail et tous ceux qui sont malades de ne pas en avoir sont d'accord aussi.
Et après, il avait quand même été prévu, quand même, on avait dit revenu de base, revenu citoyen à base 600 euros. On a toujours dit que ce montant doit être indexé sur l'inflation. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop d'inflation. Par les temps qui courent, il y a beaucoup d'inflation.
Oui.
Donc, il faudra peut-être faire des ajustements par rapport à ça. Donc, ça, c'est la réalité actuelle l'actualisation, on va dire, la simple actualisation.
Et où bloquer les prix aussi ? Parce qu'il peut y avoir aussi une volonté...
Oui, où bloquer les prix, mais alors... Bon, là, on va rentrer dans un autre débat qui est compliqué. Moi, je suis assez réservé sur les mesures de blocage de prix parce que ça dépend de quel prix on parle.
Les loyers, notamment.
Sur les prix, notamment des combustibles fossiles, etc.
Oui, c'est autre chose.
On le veuille ou non, la seule voie, c'est de s'en sortir. Et tant que les prix restent bloqués trop bas... le signal n'est pas bon pour que les gens aient envie de s'en sortir. Enfin, je ne sais pas s'ils n'auront jamais envie d'en sortir, mais en tout cas, il faudra qu'on arrive à en sortir. Donc, j'aime pas trop ces mesures de blocage de prix.
Disons que je pensais plutôt aux produits de première nécessité ou le logement. Enfin, voilà, le logement, c'est quand même...
Alors, le logement, on verra la fiscalité après. Et après, sur les prix alimentaires, moi, je travaille... Alors, je ne l'ai pas dit, mais... Au niveau professionnel, je travaille dans un centre de formation professionnelle depuis plus de 25 ans maintenant, et notamment dans le secteur de l'agriculture.
Ah.
Et donc, c'est pas neutre à savoir dans mon parcours, parce que je travaille de fait beaucoup avec des agriculteurs ou des futurs agriculteurs. Je forme principalement des gens qui veulent devenir agriculteurs. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec un monde où c'est plutôt un monde d'entrepreneurs que de salariés. Et puis c'est ce monde agricole qui essaye de batailler comme il peut pour arriver à vivre de son activité, quoi. Effectivement, moi je pense que les prix de l'alimentation étaient, puisque ça bouge quand même pas mal cette année là jusqu'à l'année dernière, anormalement bas par rapport au travail que ça représente de produire de la nourriture, surtout si on veut produire de la nourriture de qualité. Si on milite comme moi pour l'agroécologie, pour la culture biologique, croyez-moi, ça demande du temps de travail, ça demande des compétences, ce serait normal que ce soit payé à un juste prix, qui n'est pas atteint au jour d'aujourd'hui, quoi. Alors le problème des gens, c'est qu'effectivement leur budget passe, y a une grosse partie du budget qui passe, comme tu le disais déjà, dans le logement. On a un gros problème de logement en France, et après quand même dans des dépenses un peu que je qualifierais d'un peu plus superficielles que le logement. Donc voilà, c'est un paquet global qu'il faut revoir. Mais donc pour ça, moi, le blocage des prix, je ne suis pas trop pour cette idée-là. Maintenant, alors, je veux bien qu'on avance sur le logement, parce que on n'a pas vu comment quelle réforme fiscale on devait faire pour rendre possible notre revenu citoyen, là. Alors, la réforme fiscale, elle se joue en plusieurs parties. On avait d'abord, c'est les cotisations sociales. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui les cotisations sociales qui payent dans notre pays la protection sociale.
Donc, c'est sur le travail.
C'est comme ça que ça devrait être. Alors, c'est plus exactement comme ça, puisque maintenant, il y a une partie de la fiscalité qui vient abonder le budget de la protection sociale, mais etc. Donc nous, on reste assez attachés avec cette idée qu'il puisse y avoir des cotisations sociales, qu'elles financent autant que faire se peut la protection sociale. Donc on avait fait tout un travail pour refondre complètement la grille de cotisations sociales de manière progressive. C'est-à-dire on paye moins de cotisations sociales quand on est à un SMIC que quand on est à 6 ou 7 SMIC. Et surtout en fonction d'objectifs politiques qu'on s'était mis. C'est-à-dire qu'on voulait que quelqu'un qui soit au SMIC, qui travaille 32 heures, à l'époque on a fait les calculs sur 32 heures, soit revalorisé par rapport à quelqu'un qui, à l'époque, faisait un SMIC en 35 heures et devait gagner, je pense à l'époque, le SMIC 35 heures devait être à 1100, en net, c'était 1160 euros hein, pour 35 heures. Et donc, nous, on avait recombiné une grille de cotisation sociale pour que quelqu'un qui aurait été au SMIC à 32 heures, sur une base de 32 heures, gagne en tout, c'est-à-dire en revenu global net, c'est-à-dire le revenu global net, c'est toujours le revenu citoyen plus le revenu d'activité, presque 1400 euros. Hein. Donc ça, c'était un choix politique de dire il fallait revaloriser les bas revenus. Parce qu'on considérait à l'époque, et c'est probablement encore vrai aujourd'hui,
oui, je pense. Que
avec le SMIC, c'était trop juste pour vivre. Quoi. Et donc, on s'était dit, tant qu'à faire de mettre en place ce revenu citoyen, nous, on va faire les ajustements au travers des cotisations sociales pour qu'on revalorise les bas revenus.
D'accord.
Et par contre, on avait fait une grille, on va dire progressive ou régressive, je ne sais pas comment il faut dire, pour qu'à partir de 6 SMIC, les gens perdent en revenus en proportion de la réduction du temps de travail. En gros, ils travaillaient 35 heures, ils vont travailler 32 heures. En gros, on va dire qu'il y a 10% de réduction du temps de travail. Et donc, on disait, à partir de 6 SMIC, eh ben, les gens auront en revenu global, hein, toujours revenu citoyen plus revenu d'activité, 10% de moins que ce qu'ils gagnaient à travailler à 35 heures.
Oui, c'est pas mal, 6 SMIC. Hein. Enfin, je veux dire, si on me le propose...
Tu signes.
Oui, je crois que je dirais oui. Et du coup, j'accepterais volontiers de payer 10%. Enfin, voilà. Ça me choque pas. Ça me choque pas.
Voilà. Donc ça, c'est déjà le travail sur les cotisations sociales, mais qui est important. Hein, faire. Et ce que j'ai pas dit, mais qui est important, donc le choix qui avait été fait à l'époque, c'est de garder inchangé le coût du travail. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas cette expression coût du travail, mais moi, elle me gêne pas trop. Donc l'idée, c'était de dire on travaille à coût horaire égal pour l'entreprise. Hein, c'est-à-dire une fois qu'on a payé toutes les charges, une fois qu'on a payé toutes les cotisations, une fois qu'on a payé le salaire chargé global, hein, il restait au coût horaire identique. C'est-à-dire que c'était une forme de faire une réduction du temps de travail qui ne soit pas financée par les entreprises, mais qui soit financée, on va dire, plutôt, en tout cas pas que financée par les entreprises, mais plutôt financée par la collectivité, notamment au travers du revenu citoyen. Quoi. Et pour boucler le dispositif, eh ben, il faut regarder la réforme fiscale qui était à faire pour ça. Et donc là, la réforme fiscale, il y avait beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr, parce que nous, on a beaucoup travaillé à partir des idées de Thomas Piketty, qui nous dit qu'en gros, notre fiscalité actuelle est complètement... déconnecté de ce qu'il faudrait faire dans notre pays, qu'il faut tout revoir. Donc nous, on ne s'est pas gêné, on a dit on va tout revoir.
Vous avez relevé
le
défi.
Et en gros, on a surtout revisité deux impôts qui sont l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine. Mmh. Alors pour l'impôt sur le revenu, l'idée étant de le rendre déjà alors quelque chose qui a été fait depuis, hein, c'est-à-dire automatique, prélevé à la source.
Oui.
Et très progressif. Et notamment, alors tout ça, c'est des calculs hein, qu'on avait fait justement pour répondre aux objectifs de résultats de revenus global que je vous ai évoqué avant. Donc là, on avait un impôt qu'on appelait un impôt global sur les revenus qui aurait été d'abord individualisé. Vous voyez, nous, on militait pour l'individualisation, c'est-à-dire la déconjugalisation de l'impôt sur le revenu.
Comme pour le revenu de
base. Parce que, ben voilà, on est dans une société qui est de plus en plus individuelle, donc on peut le regretter, hein. Moi, je suis assez attaché à la notion de famille, mais en tout cas, voilà, je constate l'évolution de la société.
Et puis ça libère dans le couple aussi.
Finalement, ce serait plus simple si on déconjugalisait complètement l'impôt, si on l'individualisait complètement.
Comme ça, on est en couple par choix et pas par nécessité, parce que c'est parfois le cas, quoi.
Oui, voilà, oui. Et donc, du coup, on a retravaillé une grille d'imposition dont, typiquement, la première tranche est imposée à 35%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un chiffre énorme. Hein. Aujourd'hui, la première tranche d'imposition, je ne sais plus, elle doit être à 5%. Et donc, ça veut dire que, déjà, et ça s'applique à tout revenu au-delà du revenu citoyen. C'est-à-dire le revenu citoyen, lui, il est sans impôt.
D'accord, d'accord.
Par contre, à partir du moment où on gagne de l'argent, que ce soit parce qu'on a une activité rémunérée, que ce soit des revenus fonciers ou que ce soit des revenus financiers, eh ben, on va avoir une imposition qui démarre et qui démarre très tôt, on va dire, enfin très tôt et peut-être très fort.
Donc en fait, Patrick,
alors, ça peut paraître effrayant comme
Patrick, si
comme
je comprends bien, si je comprends bien, le revenu citoyen consisterait en fait aujourd'hui comme la première tranche qui n'est pas imposable.
Voilà, si voilà. On peut dire ça, ouais.
Et à partir de là, la deuxième tranche,
et puis à partir
à 35.
De là, tout ce qui est gagné au-delà est prélevé.
D'accord.
Et je vous dis, avec un taux même qui débute à 35 et on terminait à partir de 10 SMIC à 60%. Et ça, c'est bien de la progressivité comme c'est actuellement. C'est-à-dire que par tranche, on monte progressivement, etc. On s'est posé la question, et moi je milite très bien pour ça, de mettre une tranche à 100%. Alors, est-ce que c'est à partir de 20 SMIC ou 50 SMIC? J'en sais rien.
Ouais.
Tranche à 20, à 5,
on
à 5,
est d'accord
à
aussi.
Pourtant, ça veut dire qu'en gros,
on
impose un plafond de... un revenu maximum, quoi.
Oui, tout à fait.
Un revenu minimum, oui. On impose un revenu maximum.
Et donc, en
ça,
fait.
C'est un autre débat, mais moi, je serais plutôt pour ça, mais là, on s'était arrêté à 60%.
Et du coup, on reviendrait au taux d'imposition qui correspond à peu près à l'ISF ou au plus haut
alors,
plafond qu'il y a
oui,
hier,
oui,
hier en France.
Oui, l'ISF, c'est à part. C'est le patrimoine. On va en parler après. Mais là, on est sur l'impôt sur le revenu. Donc, il est individualisé, il est automatique, prélevé sur tous les revenus au-delà du revenu citoyen. Et un taux. Alors là, je ne peux pas vous montrer, à la radio, c'est difficile de vous montrer le
on les retrouvera sur le site que tu nous donneras.
Oui, vous irez sur le site pour voir. Mais globalement, en fait, ça peut faire peur, une tranche de 35%. Mais typiquement, si je peux vous donner les grands chiffres, pour quelqu'un qui est au SMIC, quelqu'un qui aurait été au SMIC, avec notre scénario, en brut, il aurait eu 1 353 €.
Oui.
En net, une fois qu'on enlève les cotisations sociales, il y en avait assez peu au SMIC, ça faisait un net de 1 218 €. Hein, je vous arrondis un peu ça.
Mmh.
Et c'est sur ces 1 218 € qu'on va prélever les 35% d'impôt sur le revenu. Alors ça fait énorme, hein, ça fait 426 €. Donc on prélève 426 € sur les 2 218 € nets qu'il gagne. Il ne lui en reste plus que 791, entre guillemets. Et c'est là que, à ces 791, va s'additionner le revenu citoyen.
Oui.
Et c'est les 791 plus le revenu citoyen qui fait que quelqu'un qui aurait travaillé avec notre proposition au SMIC sur une base de 32 heures... se trouvait qu'un revenu global net de 1 392 € par mois contre les 1 160 € de l'époque qui était le SMIC net sur une base de 35 heures.
Et est-ce que vous n'avez pas peur que le fait d'avoir une tranche ultra importante comme ça dès le départ, ça favorise finalement plutôt le fait de travailler au black?
Non, honnêtement, je pense pas. Enfin, c'est assez déconnecté et déjà pour travailler au black, il faut que tout le monde soit d'accord, c'est-à-dire faut que l'employeur et le salarié soient d'accord. Et je pense, enfin, c'était pour ça aussi qu'on militait pour l'automatisation de l'impôt sur le revenu, justement pour contrer un peu ce black. Et non, honnêtement, je pense pas que ce soit ça. Ce qui est important, en fait, les gens vont peut-être même pas s'en apercevoir, mais c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le prélèvement à la source, les gens, je pense que si je te demande si tu sais combien on te prélève d'impôts, on va dire, sur ta feuille de paye, il y a des chances que tu saches pas répondre. Et je pense que la majorité des gens ne savent pas répondre à cette question-là, quoi. S'ils ont pas fait, eux, le choix de choisir leur taux et leur montant exact, etc.
Déjà, comprendre le système de tranches, bon.
Oui, c'est une imposition, entre guillemets, un peu indolore, mais ça se fait comme les cotisations sociales sont prélevées aujourd'hui, ou d'ailleurs, je te dis, parce que maintenant, c'est prélevé à la source comme ça. Et ce qu'il faut mieux regarder, les gens regardent plus facilement ce qui reste et ce qu'ils ont disponible pour vivre que ce qu'on leur a prélevé comme ça, quoi. Donc voilà, ça c'est pour l'impôt sur le revenu, hein. Et donc c'est pareil pour les revenus fonciers, les revenus.
Donc il n'y a pas de perdants parmi les classes précaires et moyennes, on va dire.
Oui. Et puis il reste l'impôt sur le patrimoine.
Oui.
L'impôt sur le patrimoine. Donc nous, on est parti sur l'idée d'une taxe sur l'actif net. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, hein. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais il y a déjà des théoriciens de la fiscalité qui ont travaillé là-dessus. Donc en gros, une taxe sur l'actif net, c'est l'idée que sur le patrimoine des particuliers, hein. C'est-à-dire en gros, je vais essayer de l'illustrer par un exemple, j'ai acheté un appartement, je suis propriétaire d'un appartement qui m'a coûté 100 000 euros, mais pour l'acheter, j'ai emprunté à la banque et j'ai encore, je n'en sais rien, 60 000 euros à rembourser en capital restant dû.
Oui.
Donc mon actif net, c'est la valeur de mon appartement, 100 000, moins le capital à rembourser, 60 000, donc 40 000. Et donc c'est 40 000 euros qui servent de base au calcul de l'impôt sur le patrimoine. Et donc là, on a fait un même travail que pour l'impôt sur le revenu. D'abord, on a dit on va l'appliquer sur tous les patrimoines. Hein, on cumule tous les patrimoines, alors tous les patrimoines significatifs, hein, c'est-à-dire bien sûr l'immobilier, mais le patrimoine financier,
les œuvres d'art,
compris peut-être le patrimoine des œuvres d'art, enfin tout ce qui est significatif, un peu comme ça se faisait pour l'ISF, hein, ou comme ça se fait avant, ça se faisait pour l'ISF comme ça. Et puis là-dessus, on impose une taxe annuelle, donc une taxe qu'on redemande chaque année. Alors, avec des taux progressifs. Alors là, les taux sont beaucoup plus faibles. Hein. On avait mis une première tranche. Alors déjà, on avait mis 15 000 euros de franchise de patrimoine hors TAN. Donc ça, c'est pour dire que les gens ont le droit quand même d'avoir un peu d'épargne à la banque, ce que j'appellerais une épargne de sécurité, une épargne de sécurité pour le cas où il y a un coup dur, etc. Mais à plus de 15 000 euros par personne, on commence à imposer avec un taux qui était de 0,75 au début, 0,75% au début, et puis qui monte, je crois qu'on était monté jusqu'à 3%, là j'ai plus sous les yeux le bagris, mais ça montait jusqu'à 3%, mais pour des patrimoines de plusieurs millions d'euros, quoi, pour une personne.
Oui, donc ma maison que j'habite tous les jours, finalement, ça sera moins qu'un impôt foncier, quoi.
Oui, et c'est d'autant plus moins qu'un impôt foncier, c'était que l'idée que ça remplace les taxes foncières.
Ah oui,
donc on
voilà.
Voulait et le calcul avait été fait pour que en gros quelqu'un qui aurait un bien immobilier, ça peut être un appartement ou une maison, qui soit adapté à la taille de sa famille, c'est-à-dire qu'il soit pas surdimensionné par rapport à ça, finalement ne paye pas plus que ce qu'il paye actuellement en taxes foncières. En gros l'idée était là. Par contre après ceux qui ont soit des biens on va dire surdimensionnés surcoté, etc. Soit qui ont plusieurs biens immobiliers parce qu'ils ont une résidence secondaire ou parce qu'ils sont bailleurs, enfin, ils ont des biens qu'ils mettent en location, etc. Et ben eux, voilà, on additionne tout ça et au bout d'un moment, ça fait des grosses sommes, quoi.
Mais c'est parce qu'ils les ont, ces sommes aussi, voilà.
Hein?
Parce qu'ils les ont ou parce qu'effectivement, ils occupent un terrain que d'autres ne peuvent pas occuper,
soit ils les ont,
en forme de luxe.
Soit, alors, il peut y avoir le problème de ceux qui vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai du patrimoine parce que, par exemple, j'ai hérité d'un bien familial, mais finalement, je l'occupe pas, et donc j'ai pas forcément de revenus liés à ça, quoi. » Alors, bon, déjà, ces gens-là, on va dire que déjà aujourd'hui, ils payent une taxe foncière sur ce bien-là, quand même, donc c'est à eux de voir si ça vaut le coup de le garder ou pas. Mais effectivement, et ça, c'est la vertu, selon moi, de la taxe sur l'actif net. On dit c'est un impôt qui est incitatif à mettre en valeur son patrimoine. C'est-à-dire, on sait qu'on a un patrimoine, chaque année, on va payer une certaine quantité d'impôt sur ce patrimoine, et donc la réaction logique, c'est de se dire, eh ben, au minimum, je vais essayer de mettre en valeur ce patrimoine. Alors, soit je le mets en valeur parce que je l'habite, et puis dans ce cas-là, ça va bien comme ça. Soit, si c'est un bien immobilier, eh ben, là, j'ai deux options. Soit je dis, ben, moi, je pense que ça ne m'intéresse pas de le garder parce que finalement, ce que je paye en taxe de patrimoine, c'est trop coûteux, j'en ai pas besoin. Dans ce cas-là, je le remets en vente. Et dans ce cas-là, c'est un bien immobilier qui servira à quelqu'un d'autre qui en aura besoin. Soit je le garde parce que je pense que, je sais pas, c'est un bien immobilier auquel je suis attaché, parce qu'il vient de ma famille, etc. Et ben, dans ce cas-là, j'essaye de le valoriser, donc de le mettre en location. Et puis là, ben, y a plein de modalités de location, hein, soit des locations fixes, soit des locations saisonnières, enfin, peu importe. Mais en tout cas, il faut le mettre en valeur.
Donc ça permet une plus juste répartition du territoire aussi, parce que c'est un luxe.
On a aujourd'hui un problème de logement dans notre pays. Oui. On n'arrête pas de dire le logement, ça coûte trop cher, il n'y en a pas assez, etc. Et puis on dit il faudrait construire 500 000 logements neufs chaque année, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que d'abord, il faut faire un énorme travail de rénovation du logement existant, d'utilisation de tout le logement existant, etc. Et je pense que la taxe sur l'actif net, c'est un outil qui est très incitatif par rapport à ça.
Alors, j'imagine que, parce que je me souviens qu'on a entendu aux infos à une certaine époque la petite dame qui avait acheté une petite maison sur l'île de Ré au moment où ça coûtait rien et qu'aujourd'hui elle vaut beaucoup, mais que voilà, elle l'habite. J'imagine que pour elle, qui a très peu de revenus, mais une maison qui a gagné beaucoup de valeur, il y aurait sans doute une adaptation, quoi.
Eh ben oui, alors je veux dire oui ou non, je sais pas, je veux pas trancher ça. Il y a cet attachement un peu sentimental, on va dire, à certains biens immobiliers, etc. Je sais que ça existe, hein. Disons, moi j'y suis personnellement pas trop sensible, mais je sais que ça existe. Je verrais mieux, moi je resterais, si on me demande mon avis personnel, hein, mais ça c'est, faudra sans doute faire un débat démocratique autour de ça.
Ouais, et rapidement, parce qu'on va devoir.
Ouais, mais on va pas le faire.
C'est
tout
l'antenne.
Suite, mais, on peut, enfin, j'en sais rien, ou garder une partie de la maison, faire un petit appartement dans une partie de la maison. Tu vois, si elle est vraiment attachée à cette maison-là, partager la maison, voilà, enfin, il y a des moyens. Enfin, il y a des moyens.
L'accompagnerait, quoi.
Voilà, il faut y travailler. Ouais.
Avant de laisser nos auditeurs, est-ce que tu peux nous donner un site, par exemple, ou un endroit où s'ils sont intéressés par cette proposition de revenus citoyens inconditionnels, ils puissent retrouver les détails et creuser un peu l'idée?
Oui, donc l'adresse, c'est un site que j'ai créé quand j'ai quitté Nouvelle-Donne, justement, pour rassembler tout le travail qu'on avait fait, etc. Donc vous pouvez retrouver tout le projet de société qui avait été élaboré à l'époque. Mmh. Et donc l'adresse, ça s'appelle des citoyens à l'Assemblée. Des citoyens à l'Assemblée, on avait choisi ce nom-là parce que c'était un moment avant les élections législatives, on se disait ce serait bien d'envoyer des citoyens à l'Assemblée qui portent ce projet de société.
D'accord.
Et donc le site, c'était de proposer à ces citoyens qui auraient pu devenir députés de s'approprier tout ça et de le faire vivre dans l'Assemblée nationale.
Donc, si on tape,
c'est tout attaché. Hein.
Des
tout
citoyens
attaché,
là-dedans.
Sans accent. Voilà, donc www.descitoyensassemblée.fr.
Ok, super. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir emmené dans cette version. On termine avec un peu de musique.
Mais oui, alors un tout dernier morceau, on va mettre juste un petit extrait parce que on a plus beaucoup de temps. Je te propose une chanson d'Yvan Etienne qu'on a déjà passé plein de fois, hein. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est parti.
Bonne
semaine, bon mois d'ailleurs à vous tous.
Salut Max.
Au revoir.
Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse ou pas le poil dans la main, rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est à l'école qu'il faut choisir, en mettre un coup et bien marner, pour pouvoir espérer devenir un vrai de vrai ramier. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Car pour buller, faut la jouer fine, pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale.